Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonjour, bonne année à tous. Bonjour Théo, bonjour Nathalie.
Bonjour,
bonne année à
bonne
vous.
Année.
Moi, je suis ravie de vous revoir pour cette nouvelle année.
Ouais.
Et de mémoire, ça fait pas un an qu'on a commencé.
Je crois que si.
Ou ça va être courant janvier? Non, il me semble que ça fait ouais. Un an. Ça fait un an.
Enfin, je te laisse faire le soir de ton émission, je regarde pendant ce temps.
Voilà. Il est bien ce garçon, hein, franchement. Mais avec la nouvelle année, il s'est amélioré, je trouve. Ça a du bon. Bon, j'espère que vous allez bien tous. Moi, je suis ravie, même Nathalie et Théo.
J'ai déjà la réponse.
Oh, c'est top.
Quelle réactivité.
C'était le mardi 25 janvier.
On n'est pas loin.
T'as de l'avance.
On fera une spéciale un an. Je ne sais pas encore quoi. Déjà, on va faire l'émission de ce soir. Ouais, déjà, ça va pas être mal.
Du coup, tu pourras faire ça le mardi 24.
Ah, super. Oh, t'es... Qu'est-ce
dans trois semaines.
Quelle efficacité. C'est les nouvelles résolutions pour 2023.
Il faut que je note d'ailleurs parce que moi, j'ai pas changé.
Pourquoi je n'étais pas efficace avant?
Si. Mais moi, il faut que je note tout. Tu sais, j'ai pris de l'âge, Théo. Tu sais que moi, ça fait deux jours que j'ai eu un an de plus.
C'est vrai.
Et c'est le coup de bambou, là. C'est la moitié d'une année qui est décisive. Voilà.
Moi, ça fait 19h34 que j'ai un jour de plus.
19h34.
Oui, il est 19h34. Donc ça fait 19h34 que j'ai un jour de plus.
Un jour de plus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va pas mieux hein, quand même. Hein. Je te rappelle quand même qu'on est en direct et on peut pas couper là. Hein. On
c'est
peut
du
pas couper.
Détail.
Donc et après on va prendre du retard sur toutes mes recettes. C'est pas bien, Théo. Mais j'aime entendre ta voix à la radio, c'est superbe. Alors on voit ensemble un petit peu les recettes de ce soir. Alors je sais que le rhume traîne en ce moment, donc ouais. Aujourd'hui j'ai voulu vous montrer, vous donner une recette plutôt une soupe de aux légumes pour les jours de rhume. Voilà, c'est simple. Il y a 5 carottes, 3 courgettes moyenne, 4 pommes de terre, 2 tomates, 1 oignon, du poivre et du sel, du curry ou du curcuma. Et en fin de compte, c'est ça qui, pour la soupe du rhume,
C'est des épices.
On verra tout à l'heure pourquoi. Et puis un petit peu de beurre, une dose de crème fraîche. Pour le matériel, il nous faudra un économe, un couteau, une marmite, un mixeur ou un blender. Ensuite, j'ai choisi une papillote de saumon au marron. Alors, Nathalie me disait hors radio qu'elle n'avait pas l'habitude de manger les marrons avec le poisson.
Non, et c'est vrai.
Voilà, donc tu vas voir, et il y a de la viande dedans, puisqu'on a de la poitrine de porc dedans. Ah. Donc, en fin de compte, c'est un terre et mer.
C'est ça.
Voilà, on peut l'appeler terre et mer, c'est aussi faisable. Moi, je l'ai appelé papillote au saumon et au marron. De saumon et au marron. C'est très, très simple. Tout ce qui est papillote, il n'y a rien de plus simple. C'est le four qui fait. Il vous faudra une barquette de tomates cerises. Alors oui,
si on en trouve.
Oui, on en trouve parce qu'il y a eu les serres qui ont tourné en Espagne pendant... juste avant les fêtes, parce que plein de gens, on en a acheté des tomates cerises. Je sais que ce n'est pas la saison, mais ça vous permettra de refaire cette recette quand ça sera la pleine saison, c'est-à-dire au mois de mai, juin, juillet, pour les tomates cerises. Voilà, maintenant, s'il n'y a pas de barquette, il n'y a pas de tomates, ce n'est pas grave, vous pouvez mettre de la courgette, par exemple, dedans. Voilà.
D'accord.
Hein, donc, comme on est de la courgette ou du petit marron, si vous voulez, remplacé par un autre légume. On aura besoin donc, d'une barquette de tomates cerises, du vinaigre balsamique, d'une briquette donc, de crème fraîche et liquide, de 4 filets de saumon, 8 tranches de poitrine de porc ou de bacon. Donc, moi, j'aime bien ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que je prends, en fin de compte, une de chaque.
D'accord.
Voilà, pour mélanger les goûts, ça peut être sympa. Et puis 200 grammes de marrons grillés en bocal. Vous les trouvez tout à fait en bocaux, c'est mieux. Voilà. Et 4 échalotes. Pour le matériel, vous voyez, il ne vous faut pas grand-chose, puisqu'il vous faut du papier aluminium ou du papier de cuisson pour faire la papillote, une plaque pour aller au four et puis un couteau. Et on finira par la galette des rois soleil. Alors pourquoi je l'ai appelée comme ça? Ben, vous verrez tout à l'heure en fin d'émission parce qu'elle a une forme particulière. Pour cela, il nous faudra deux pâtes feuilletées, 100 g de beurre tendre. Quand je dis tendre, hein, c'est mou.
Pommade.
Oui, c'est ça, pommade, tout à fait. 200 g de poudre d'amande, 150 g de sucre, deux gouttes. Non, c'est pas des gousses, des gouttes.
C'est pas de la vanille, c'est de l'amande amère.
Voilà, ouais. Oui, alors, vous pouvez mettre de l'amande amère, c'est pour ça que j'avais ça dans la tête. Et c'est-à-dire qu'on aura besoin de deux gouttes vraiment d'extrait d'amande amère. Si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez mettre de la vanille dedans.
Oui, c'est ça.
Deux œufs et puis un œuf.
Un jaune d'œuf. C'est ça? Un jaune d'œuf. Ça va.
Je prends la main.
On prend la main.
Vous savez quoi? On se retrouve après une courte pause musicale. Parce que là, c'est un drame qui se passe en direct. Bon, année toute rouge. On se retrouve juste après Angèle avec Promémo sur Infini Radio. C'est Foudan en direct jusqu'à 19h30. À tout de suite.
Déjà tombé.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Foudan.
Pardon, on a un fou rire.
On est en direct. Hein.
Alors, après la canne de toux, vous verriez la tête que j'ai. Vraiment, c'est vraiment une horreur.
J'ai alors, quoi, je mets le contexte. En fait, Anne a accroché à ses, en plein milieu de ses lunettes un petit sachet. C'est quoi ? C'est de la
mais
lavande.
Non, c'est mais son, non, c'est son foulard.
Ah, c'est ton foulard. Je crois que tu avais mis un petit sachet de truc.
Non, mais non, c'est...
Pardon, donc, j'ai un fou rire.
Après la canne de toux, je suis désolée, vraiment, c'est une émission sérieuse normalement.
C'est 2023.
Ah la vache, si toutes les émissions sont comme ça, mon Dieu, on va pas finir.
Ah là là.
Bon, alors, on en était à la galette des rois. Moi, en fin de compte, c'est la galette des rois. C'est tirer les rois qui m'a fait bondir. Tu vois, parce que ça m'émeut toujours de tirer les rois. Donc, entre parenthèses, c'est vendredi. Oui. Alors, donc pour cette galette, donc on était sur les gouttes d'extrait de vanille et je disais que on pouvait mettre de la vanille. Donc vous pouvez mettre 2-3 gouttes de vanille. Il faudra aussi 2 jaunes d'œufs et puis
2 œufs et 2 œufs
et un jaune d'œuf.
C'est ça.
Ça va. On va
c'est là qu'on en était. Je crois.
Alors voilà. Et comme je ne vois rien parce que devant mes lunettes est accrochée mon écharpe, ça va être assez coton. Bon, enfin, je vais essayer de.
Tu veux que je dise
ça.
Le matériel ?
Non, ça le va? Matériel, ça va aller. Je vais pouvoir voir, j'espère. Donc, il me faut une... Puis, je commence un peu à la connaître par cœur. Une spatule en bois ou en plastique, un robot, un saladier, un fouet, un papier cuisson, et puis une plaque à long four et un couteau. Alors, déjà, avant de commencer toutes les recettes, Nathalie, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu des choses sur un ingrédient qui fait partie de la soupe que l'on va voir, qui est la carotte, parce qu'on en utilise assez souvent, mais on ne connaît pas forcément d'où elle provient. Donc, je t'écoute, Nathalie.
Alors, la carotte, c'est une plante biannuelle. Oui, c'est ça, biannuelle, de la famille des apiacées, aussi appelée ombellifère, donc largement cultivée pour sa racine pivotante, charnue, comestible, de couleur généralement orangée, consommée comme légume. La carotte représente, après la pomme de terre, le principal légume racine cultivé dans le monde. C'est une racine riche en carotène. Le nom carotte est un emprunt savant au latin carota, qui ne remonte qu'au XVIe siècle, avec une première attestation en 1508. En français régional ou en patois, la carotte est également appelée, parfois a été appelée faux chervie, ou girouille, ou racine jaune, ou pastonnade, et avec les dérivés pastounade, ponstinade, pastanade, et j'en passe, et ça vient de pané. Voilà. Qui est aussi désigné, qui a, oh là là, j'ai du mal à lire moi ce soir, qui a aussi désigné la carotte. Donc le nom carotte peut également s'appliquer à de nombreuses autres plantes et à désigner au 19e siècle et 20e siècle, surtout en Lyonnais, en Dauphiné et Savoie, la betterave.
Et oui. Donc, en fin de compte, c'est tout ce qui est racine. Hein.
Oui, c'est
parce
ça.
On a parlé du pané, on a parlé de la carotte. Et c'est marrant, tous ces noms, en fin de compte, qu'on a oubliés, mais qu'on a tendance à réentendre de temps en temps.
Bah, certainement dans les
c'est du patois, hein.
Provinces, dans les petits villages.
C'est du patois, hein. Pour certains. C'est mais maintenant, vous serez... Vous saurez quand, si jamais vous entendez la pastounade,
c'est de la carotte.
C'est de la carotte. Donc voici, alors pour cette soupe des jours de rhume, je pense que ce soir je vais me la faire parce que j'ai l'impression que le rhume me guette. Je vous rappelle les ingrédients. Donc il faut 5 carottes, 3 courgettes. Alors vous allez voir, c'est une soupe qui peut être partagée avec plusieurs, mais qui est assez épaisse. Et puis 4 pommes de terre, 2 tomates, 1 oignon, poivre, sel bien évidemment, du curry ou du curcuma en poudre. Et puis il faudra un petit peu de beurre, une dose de crème fraîche. Et puis côté matériel, on aura besoin d'un économe, d'un couteau, d'une marmite, d'un mixeur ou d'un blender. Pour ça, il vous faut 10 minutes de préparation. Voilà, donc en 10 minutes, c'est fait. Par contre, au niveau cuisson, évidemment, puisqu'on doit cuire les légumes, c'est environ 40 minutes. Mais je vais vous donner une petite astuce pour savoir quand est-ce que les légumes seront cuits. Mmh. Parce que ça dépend de la qualité de vos légumes. Voilà, les courgettes, c'est très court oui, au niveau cuisson, mais les pommes de terre et les carottes, ben, y a une astuce, vous allez voir. Dans un premier temps, pour commencer, on va mettre dans une marmite un litre d'eau et puis on va faire bouillir. Donc d'habitude, quand on fait une soupe, on met tous les ingrédients dedans et puis on laisse bouillir. Là, pour le fait, on va uniquement, parce que nous, ce qu'on veut garder, c'est toute les bienfaits, les vitamines. De ces légumes. Donc, vous faites bouillir de l'eau, vous prenez votre courage à deux mains, parce que quand on a le rhume, on est un peu patraque. Et puis, bah, vous lavez les légumes, vous les épluchez. Donc, vous épluchez tous les légumes, sauf la courgette. La courgette, vous la lavez bien, mais vous ne l'épluchez pas parce que dans la peau... Alors, moi, j'avouerai que les carottes, je ne les épluche pas non plus.
Ah bon ?
Je les lave, comme les courgettes, je les lave et même la pomme de terre, quand je fais une soupe, je les lave bien.
Tu brosses pas
Je brosse. Je brosse un petit peu parce qu'il y a toujours un petit peu de pesticides, de saloperies qu'on met dessus.
Oui, c'est ça.
Mais je mets les légumes, je mets les peaux avec. Voilà, parce que voilà, c'est moins de déchets. Et il faut savoir que dans certains légumes, je ne pourrais pas dire lesquels, mais on a toutes les vitamines qui restent, donc qui sont là. Donc, je n'épluche pas. Après, c'est à vous, c'est vous qui voyez. Mais si vous n'épluchez pas, surtout, vous brossez vos légumes. Hein, ça, c'est important.
Ah oui, oui.
Voilà, sans leur arracher la peau non plus, ça ne sert à rien. Et puis, vous allez les découper. Donc, tous ces légumes, vous allez les découper en gros morceaux. Donc, ça ne sert à rien de faire des rondelles. C'est l'eau qui va cuire. Et vous jetez tout dans la marmite bouillonnante. Même l'oignon cru que vous aurez, donc la marmite d'eau, vous l'aurez préalablement salée et poivrée avant de parachuter tous les légumes. Voilà, et vous laissez cuire le temps qu'il faut, c'est-à-dire à peu près 20 minutes. Alors, je dis le temps qu'il faut, 20 minutes, mais en fin de compte, vous allez mettre, vous mettez un quart d'heure déjà dans un premier temps. Et puis, vous regardez. Et avec un couteau, ben, en fin de compte, quand les carottes sont cuites, eh ben, tous les légumes sont cuits.
Ah ouais ?
Que vous ayez... Alors, vous pouvez avoir de la pomme de terre qui est un peu facile à cuire, qui se cuit très, très vite. On a des nouvelles variantes de pommes de terre qui sont faciles, rapides à cuire. Mais la carotte, c'est bien spécifique. Quand la carotte, vous rentrez un couteau et que ça, vous arrivez à le rentrer facilement,
c'est que
le reste est cuit.
D'accord.
Donc ça peut vous servir sur une autre recette. Et puis, vous allez mixer le tout. Et puis, une fois que vous aurez mixé le tout, vous allez ajouter une cuillère à café de curcuma ou de curry. Moi, perso, je préfère le curcuma parce que vous verrez que tout à l'heure, Nathalie va vous expliquer les bienfaits un petit peu du curcuma. On en avait déjà parlé lors d'une autre émission sur peut-être les recettes réunionnaises qu'on avait fait de mémoire. Et puis, vous rajoutez un bon morceau de beurre et puis de la crème fraîche. Donc, la briquette de crème fraîche, voilà, vous la rajoutez dans la soupe. Et puis, vous mélangez bien, vous arrêtez de mixer, hein, ça ne sert à rien, mais vous mélangez l'ensemble, il ne faut pas que ça recuise. Hein, je sais, alors, il y a du beurre, il y a de la crème fraîche, mais quand on est malade, on ne compte pas les calories, hein, quand on est malade. Plus on a des calories, meilleur ça. Et puis, vous allez déguster, bien évidemment, chaud. Voilà pour la soupe des jours de rhume. Nathalie, tu peux peut-être nous dire...
On va faire une page de pub avant que je vous explique l'histoire du curcuma.
Oui, oui, parce qu'on a pris du retard, donc effectivement.
Otari et okapi, koala et koati, girafe et gibbon, tapir et tatou, panthère et panda.
On pourrait continuer longtemps, mais le mieux, c'est de venir les voir au zoo parc de Beauval. Venez rugir avec les lions, parler aux perroquets, craquer devant les jumelles pandas.
Beauval, la passion animale.
Le zoo parc de Beauval et ses hôtels, une fenêtre sur le monde à ouvrir sans modération.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici alors juste un peu avant la page, la pause. On parlait du curcuma. Donc Nathalie allait nous expliquer ce qu'était ce curcuma et l'espèce de plante.
Ouais. Alors le curcuma, qui se dit aussi curcuma longa, est une espèce de plante herbacée rhizotameuse, vivace, du genre curcuma, de la famille, alors attention, Achum, des Zingiberaceae, originaire du sud ou sud-est asiatique. De ces rhizomes, réduits en poudre, est extraite l'épice homonyme. Le curcuma, c'est l'ingrédient principal des caries ou curries, est particulièrement présent dans la vie socioculturelle du sous-continent indien, où il est considéré comme une plante exceptionnelle en regard de ses nombreuses propriétés. Donc c'est une épice conservateur de nourriture, agent colorant, cosmétique et médicinal, répandue dans le sud-est de l'Asie depuis l'Antiquité. Le curcuma fait l'objet de nombreuses études scientifiques dans le monde entier afin de mieux connaître ses propriétés alimentaires et médicales. Le curcuma représente également un enjeu économique pour l'Inde, son premier producteur mondial, ainsi que pour de nombreux autres pays producteurs. Le curcuma est une plante vivace, herbacée, à courte tige qui peut atteindre une taille d'un mètre. Elle possède de nombreux rhizomes aromatiques et ellipsoïdes ou cylindriques de couleur jaune à orange à l'intérieur. Ses larges feuilles, oblongues ou elliptiques, lancéolées, sont alternées, et réparties en deux rangées. Elles sont uniformément vertes, jusqu'à 50 cm de long, et larges, de 7 à 25 cm. Ses épis peuvent mesurer jusqu'à 20 cm. Ses feuilles sont stériles, mais le bouturage spontané des rhizomes permet la propagation. Le curcuma longa ne supporte pas les sols gorgés d'eau. Il requiert un grand ensoleillement et un sol très fertile. Il est particulièrement adapté aux régions soumises à la mousson et aux forêts de feuillus comme les forêts de teck. Les cultivateurs distinguent la partie centrale du rhizome, appelée curcuma mère, des doigts, qui partent de cette racine centrale. Le curcuma mère est davantage utilisé pour ses vertus médicinales, alors que les doigts sont plutôt consacrés aux usages alimentaires.
Merci Nathalie. Alors moi, je cultive le curcuma.
Ah ouais.
En pot. Hein. Donc, en fin de compte, j'en ai...
Vaut mieux, parce que les rhizomes, ça se...
J'en ai ramené de La Réunion, et je me suis dit, je vais le planter. Je verrai bien ce que ça donne. Et en fin de compte, il a germé, et il m'a donné des jolies fleurs violettes, qui étaient un petit peu, pas comme des clochettes, mais en épis, effectivement.
Ça fait des jolies fleurs.
Mais alors, elles sont violettes, mais on a l'impression qu'elles sont même translucides.
Ah ouais.
C'est assez joli. Voilà, et tous les ans, je me dis, je vais virer le pot et en fin de compte je le remets dans mon jardin l'été et puis c'est fleuri et là cette année j'ai eu 5-6 fleurs donc moi j'étais contente, je voyais mon petit curcuma qui m'a servi à rien puisque ça pousse.
Et du coup t'as pas récupéré la racine pour la mettre en poudre et...
Alors je n'y touche pas, je l'attends qu'elle grandisse de façon à pouvoir, parce que moi j'en ai d'autres de curcuma que je prends quand je fais de la cuisine, mais celui-là je laisse grandir déjà dans son pot, parce que j'ai mis, en fin de compte, le curcuma dans un grand pot, de façon à ne pas avoir plusieurs rhizomes, et après, je le récolterai à ce moment-là.
D'accord.
Voilà, moi, je m'amuse à faire des expériences comme ça, donc voilà. On va passer à la suite, et la suite,
c'est les papillotes.
Les papillotes. Pour cela, je vous rappelle un peu les ingrédients, puisque c'est papillotes de saumon au marron. Et il nous faut une barquette de tomates cerises, du vinaigre balsamique, une briquette de crème fraîche liquide, 4 filets de saumon, 8 tranches de poitrine de porc ou de bacon, ou les deux, et puis 200 g de marron grillé en bocaux. Et puis évidemment, les 4 échalotes. Côté matériel, il vous faudra du papier aluminium ou papier cuisson. Moi, personnellement, je préfère faire ça avec du papier cuisson. Voilà, je trouve ça moins toxique. Après, c'est une question de choix. Et puis, surtout, une plaque à l'enfour. Et puis un couteau. Pour cette préparation, il vous faudra à peu près 15 minutes de cuisson et 20 minutes de préparation. Oui, non, hein, 20 minutes de préparation. Moi, j'ai mis large, mais comptez 30-35 minutes pour l'ensemble. Donc déjà, on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. On va émietter grossièrement les marrons et puis on va couper les cerises en deux.
Les tomates cerises.
Les tomates cerises, excusez-moi. Oui, parce que les cerises, ce n'est pas la même. Les tomates cerises en deux. Et puis, on va émincer en petites rondelles les échalotes. Donc, vous les épluchez et puis vous les émincez. Il faut que ce soit un petit en rondelles. On ne part pas sur des petites lanières. Et dans chaque papillote de papier cuisson, on va y déposer donc, deux tranches de bacon ou de poitrine, ou les deux, Hein, donc, le bacon, bon, on le verra tout à l'heure, hein, c'est une viande un petit peu salée, donc vous évitez de trop mettre de sel, comme la poitrine de porc aussi, hein, si elle est salée. Si vous utilisez la poitrine de porc pour avoir un meilleur goût, prenez plutôt de la fumée, voilà, parce que vous aurez un parfum qui sera différent. Et puis, vous allez parsemer dans votre papier, vous allez mettre 6 à 5 tomates cerises coupées en deux, une tranche de saumon. Donc, on est bien d'accord que c'est la tranche de porc ou de bacon au fond. Tomates cerises, par-dessus, on met le saumon. On cisèle, on fait quelques petites giclettes de vinaigre balsamique pour donner du goût. Et on finit par les échalotes émincées finement. Et là, on met 6 à 8 marrons selon les goûts. Hein, donc après, moi perso, moi le marron, ça, je cours pas après, donc j'en mettrai pas. Mais je vais pouvoir mettre des courgettes, des légumes, des mini poireaux coupés en lamelles. Enfin, voilà. Je vous donnerai d'autres recettes qui peuvent être sympas,
pour ceux qui n'aiment pas les marrons,
et très faciles à réaliser une autre fois. Donc on émiette nos marrons grossièrement et puis on rajoute une cuillère de crème fraîche. Et on sale et on poivre. Alors, à votre convenance, savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bacon et la poitrine de porc, c'est parfois sucré. Donc, moi, je poivre uniquement, je sale pas quand il y a du porc. Et après, c'est à la convenance de chacun. Voilà, parce que c'est plus compliqué. Et vous refermez la papillote. Alors, pour refermer la papillote, il faut joindre les deux bouts en haut. Et vous les tournez sur elles-mêmes jusqu'en
comme
bas.
Comme un bonbon, en fait, c'est
comme
ça.
Comme un bonbon. Ouais. Et sur les côtés, vous les ramenez au milieu, en fin de compte. Et si oui, jamais d'accord. Ça ne tient pas, vous piquez les deux morceaux, les deux bouts, avec un cure-dent. Voilà, tout simplement. Donc après, quand vous, faudra dire à vos invités, hein, ou alors vous mettez votre papillote en carré et vous la mettez comme une bonbonnière. Donc c'est-à-dire que vous froissez le papier sulfu et vous piquer dans le milieu le papier sulfu de façon à piquer avec un cure-dent et de façon à ce que le papier bouge pas. Voilà, ça c'est une astuce. Maintenant, ceux qui n'ont pas de papier sulfu, papier cuisson, ils prennent de papier aluminium, c'est plus facile, c'est clair, voilà, moi je préfère en papier. Voilà, et vous refermez bien et vous enfournez 15 à 20 minutes. Alors, 15 minutes, je vous rappelle que c'est un poisson. Donc 15-20 minutes, vous regardez bien, hein, et puis si vous n'êtes pas sûr, vous ouvrez une papillote, vous regardez l'intérieur de la chair, s'il y a encore un petit peu de rose foncé, que ce n'est pas cuit. Après, ça peut finir de cuire dans la papillote. Donc vous pouvez mettre 15 minutes et puis laisser cru cuit. Hein. Ça se mange aussi, cuit. Non, j'y arrive pas.
Cuit.
Voilà, non, j'y arriverai pas. Bon, ce soir, c'est une émission comme ça. Voilà, et puis surtout, vous servez ça, vous pouvez servir ça avec un riz balsamique, ça ira parfaitement.
Basmati.
J'y arriverai pas ce soir, c'est une catastrophe. En fin de compte, il ne devrait pas y avoir de jours de congé.
On est trop près du 31, là.
Exactement. On s'était posé la question si c'était... Mais pourtant, je n'ai pas fait la fête. J'aurais dû peut-être faire la
ça,
fête.
C'est ça, en fait.
En fin de compte. Bon, Nathalie, tu peux nous dire peut-être quelque chose sur le bacon. D'où il vient, ce bacon?
Ce fameux bacon. Alors, c'est un terme anglais pour désigner du lard salé. Et parfois fumé, qui se mange très souvent en Angleterre avec des œufs au petit déjeuner, le fameux breakfast, c'est ça. Le bacon français, lui, désigne un morceau de longe de porc demi-sel, tranché fin, et est souvent confondu avec son homologue anglais dans les préparations culinaires. Le terme bacon est attesté en français depuis le XIe siècle avec le sens de flèche de lard salé. Il dérive du vieux bas, francique, baco, qui veut dire dos. Voilà.
Donc, le bacon, vous faites attention, quand vous allez en Angleterre, vous ne trouverez pas forcément forcément le vrai bacon, alors que chez nous, c'est plutôt dans la longe demi-sel. Donc, faut faire attention. Nathalie, est-ce que tu as... Oui, on a du temps pour nous dire un petit peu quelques mots sur le vinaigre balsamique qu'on a utilisé pour un petit peu donner de peps à notre saumon.
Alors, le vinaigre balsamique ou aceto balsamico en italien, ou balsamone, je ne sais pas si on dit balsamone, balsamon en grec ancien, balsamius en latin, baume odorant parfumé, ça désigne une variété de vinaigre traditionnel de la cuisine italienne à base de moût de raisin cuit, qui est le vin sotto, traditionnellement élevé et maturé en batterie de fût pendant 3 à 5 ans, ou 10, 18 ou 25, ou plus de 150. En fait, ça, c'est comme le bon vin. Voilà.
Le bon vin. Exactement.
Il y a des crus qui sont très, très rares. Il est baptisé l'or noir de Modène. Il bénéficie d'appellations contrôlées italiennes, qui est l'IGP et traditionnel le DOP, dans les provinces de Modène ou de Reggio d'Émilie. D'où il est originaire, le terme balsamique n'est pas protégé, lui. Alors, le terme balsamique, ça vient du grec ancien balsamon, ou du latin balsamius, balsamum, qui veut dire baume odorant, parfum, parfumé, pour qualifier les arômes subtils et puissants de ce produit. Le vinaigre balsamique est sirupeux, à la saveur raffinée, aigre-douce, légèrement sucrée, et à d'autres richesses de saveurs subtiles selon les produits. Il est traditionnellement utilisé avec parcimonie, non cuit, en sauce et vinaigrette avec de l'huile d'olive, ou pour décorer et aromatiser des entrées, alors les antipastilles, les salades composées, le melon, la charcuterie, aussi le foie gras, et aussi les plats comme la viande, le poisson, les crustacés, les pâtes, le riz, les légumes, les confits, mais aussi les fromages ou les desserts comme des pâtisseries, des fraises, des framboises, les poires, les figues, la glace à l'italienne, ou bien encore des plats d'art culinaire et de cuisine gastronomique.
Eh bien, merci Nathalie. Mais vous voyez que le balsamique, c'est très tendance en ce moment.
Oui,
hein.
C'est vrai que...
Ça fait quelques années qu'on en met partout.
Ouais.
Alors moi, je vous déconseille d'en mettre partout, parce que ben, c'est légèrement sucré. Hein. Parfois, ils sont sucrés, mais après, on ne sait plus. On ne sait plus. Vous en avez en décor d'assiette, dans les restos, et vous en avez dans les sauces. Effectivement, on en met dans les desserts, dans certains desserts. Enfin, il y en a partout. Donc, il faut y aller parcimonie.
C'est ça, parcimonie. C'est...
Hein, donc, on ne mélange pas tout non plus. Ben voilà, ben écoutez, je pense qu'une petite pause musicale avant de notre galette de roi de soleil. On va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. À tout de suite.
Car du nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Quelle est grande pour moi cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat, et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface. Vous la violence, ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Thank you. Je veux pas l'Amérique. Je veux cette guerre.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Et nous revoici donc pour continuer nos recettes. Et ce soir, on va voir la galette des rois soleil. Alors, vous allez voir, elle a une forme bien particulière. J'espère que vous comprendrez. Sinon, j'essaierai de mettre une photo de celle que je ferai sur Facebook. Tiens, pourquoi pas. Bah oui, je vais peut-être en faire une vendredi, comme on tire les rois. C'est la seule jour de l'année hein, qu'on tire les rois, donc faut faire attention. Mais avant de commencer, Nathalie, j'aimerais bien, parce que je suis assez curieuse, savoir un petit peu la fève. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette fève?
Oui, la fameuse fève. Alors, elle est en faïence ou en fève de légumineuse, la fameuse fève qui se mange. La tradition de tirer les rois à l'épiphanie passe par la dissimulation d'une fève dans la galette. La personne qui obtient cette fève devient le roi ou la reine de la journée. Donc la fève en forme de lampe dorée. L'emploi de la fève remonte aux Grecs anciens qui en utilisent pour l'élection de leurs magistrats. Les Romains se servant du même moyen pour élire le maître des Saturnales. L'Église catholique combat longuement cette coutume païenne, avant de remplacer la graine par l'enfant Jésus, longtemps cherché par les rois mages. Les premières fèves en porcelaine, elles, n'apparaissent qu'à la fin du XVIIIe siècle. Pendant la Révolution française, on remplace l'enfant Jésus par un bonnet phrygien. La même époque voit naître la galette de la liberté ou de l'égalité, dépourvue de fèves, qui permet de poursuivre la tradition du gâteau partagé sans élire un roi. Et à partir de 1870, les graines de fèves sont systématiquement remplacées par des figurines en porcelaine ou, plus récemment, en plastique. Si l'emploi de fèves est d'actualité, il existe une multitude de fèves fantaisies que collectionnent les adeptes de, attention, ça a un nom, la fabophilie.
Et oui, ce sont les collectionneurs des fèves.
Exactement.
Alors moi, je ne suis pas fabophilienne, mais j'en ai plein. J'en ai plein.
Oui, moi aussi, je les garde, mais je les collectionne pas, mais je les garde.
Alors moi, j'en ai qui date, parce ouais. que bah, comme j'étais pâtissière dans mon jeune temps, j'en ai un bocal qui est plein. Maintenant, ce qui est original, c'est de trouver un louis d'or, mais il me semble qu'il y a un pâtissier encore qui le fait sur la place de Paris.
Oui,
mais,
je crois.
Je
alors,
sais plus qui,
en tout cas, l'année dernière, il le faisait encore.
Là, peut-être qu'il les a gardés, parce que le louis d'or, il a peut-être augmenté.
C'est ça, mais oui, je sais qu'effectivement, il y a ça.
Bon, eh bien, pour cette recette, alors, on va revoir un petit peu les ingrédients. Alors, il faut à peu près une heure totalité, sachant qu'il y aura 20 minutes de préparation et 40 minutes de cuisson. Alors, pour les ingrédients, il nous faudra deux pâtes feuilletées. Il nous faudra donc 100 g de beurre en pommade, 200 g d'amandes en poudre, 150 g de sucre, 2 gouttes d'extrait de vanille ou quelques gouttes de vanille, ça c'est suivant votre goût. Et il faudra 2 œufs, un jaune d'œuf. Et côté matériel, il vous faudra une spatule en bois ou en plastique, un robot, un saladier, un fouet, du papier cuisson, une plaque allant au four et puis un couteau. On va déjà commencer par, comme c'est du feuilletage, le feuilletage en général, la pâte feuilletée, on la cuit à 200 degrés, donc ce sera à peu près thermostat 6 à 7. Donc pendant que vous faites la préparation, vous faites chauffer votre four, qu'il soit bien chaud, de façon à ce que la pâte feuilletée, qui est une pâte qui est en fin de compte une pâte, je vais dire morte, mais qu'on a roulée avec du beurre. de façon à ce que ça fasse les feuilles, voilà, tout simplement. Donc je vous en dirai plus, un jour il faudra qu'on fasse la pâte feuilletée, c'est un vrai moment de bonheur là, quand on fait la pâte feuilletée. Voilà, donc vous les mélangez dans un premier temps avec une spatule, le beurre mou, donc le beurre en pommade, le sucre, les œufs et la poudre d'orange, la poudre d'amande, excusez-moi.
Donc, le beurre mou, alors on dit avec le sucre, les deux œufs entiers, je crois qu'il y a deux œufs, c'est ça, la poudre d'amande, l'extrait d'amande amère ou d'extrait de vanille. Et après, on passe au fouet pour finir le mélange, pour qu'il soit bien homogène. Et pour faire la frangipane, on finit au fouet. Et si on a un robot, c'est encore mieux, ça va plus vite et ça évite de se muscler que d'un bras, par exemple. Donc, c'est faisable aussi au robot.
Alors, on peut le faire aussi différemment. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire les œufs avec le sucre qu'on bat vraiment, vraiment pour
faire blanchir.
Et après, vous rajoutez votre beurre tout doucement et vous rajoutez en fin de compte toute la poudre d'amande.
Au fur et à mesure.
Et vous faites au fouet. Moi, j'aime bien faire ça parce qu'elle est plus légère. Elle est, voilà, ça, c'est une question de goût.
D'accord.
Maintenant, voilà. Après, il y a plusieurs variantes. L'important, c'est que votre frangipane, parce que ça s'appelle de la frangipane, elle soit légère. Donc, plus vous allez la fouetter avec les œufs, plus vous allez faire rentrer de l'air. Et,
elle sera presque mousseuse.
Voilà. Enfin bon, une fois que vous aurez mis la poudre d'amande, elle sera plus mousseuse.
Oui, ça va s'alourdir, mais...
Voilà, plus vous allez la battre et le beurre. Alors, moi, j'ai mis du beurre mou, mais encore une fois, vous pouvez mettre du beurre liquide, chauffé au micro-ondes.
Alors, fondu, mais pas chaud.
Voilà, fondu, mais pas chaud. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va cuire l'œuf.
Ouais, c'est
ça. Et c'est pas bon. Voilà. Après, il y a différentes recettes. Il y aura plein de gens qui vous diront « Non, moi, je fais comme ci, comme ça. » Après, vous faites comme vous voulez, la cuisine, la pâtisserie. Bon, mais par contre, vous ne vous plantez pas au niveau des ingrédients, des quantités. Voilà. Quand je dis deux gouttes d'amande amère, c'est de l'extrait d'amande amère. Contrairement à l'extrait de la vanille, si vous en mettez plus de deux gouttes, c'est pas bien grave. Mais l'amande amère, c'est vraiment quelque chose de fort.
Ouais.
Alors, il y en a, dans le temps, on rajoutait du rhum dans la galette ou on rajoutait du kirsch. Donc, ça peut se faire avec de l'alcool. Là, bon, ça va être, on va tirer les rois, il y aura des enfants, vaut mieux peut-être pas. Voilà. Donc, déjà, on va étaler. Donc, on a fait la frangipane, elle est homogène. Et puis, on va étaler donc la première pâte sur une plaque allant au four, recouverte d'un papier cuisson. Et puis, sur cette plaque, on va disposer. Alors, là, il faut vraiment que vous soyez attentifs parce que c'est visuellement, c'est génial, mais il faut que je puisse. Que vous puissiez comprendre comment on fait. En fin de compte, on va disposer de la frangipane sur le centre, au centre, et on va faire un cercle de 4 cm. Alors, bon, c'est pas, on ne prend pas sa mesure pour. C'est voilà, une grosse pièce.
Tu le fais à la poche à douille ou on peut le faire à la cuillère ?
Alors, comme vous voulez. Comme D'accord. vous le sentez. Moi, je le fais à la poche à douille, mais je finis à la cuillère. Et ensuite, vous allez faire à 2 cm du bord, vous allez faire un cercle. À 2 cm du bord. C'est-à-dire qu'on a un centre, on a un espace et
oui,
à 2
cm. On n'en est pas partout.
On n'en est pas partout. Vous allez voir pourquoi après. Et puis, on va donc. Voilà, on laisse bien les bords libres et un espace libre entre le centre et le milieu. Hein, donc, j'espère que je me fais bien comprendre. Vous n'oubliez pas de placer la fève, parce que si vous l'oubliez...
Ah bah oui.
Alors, moi, si je peux, sur cette galette-là, mettez-la un peu décentrée, mais dans le centre.
Au milieu.
Dans le rond qu'on a fait. Hein, donc, vous humidifiez bien la pâte, le tour de la première pâte, et vous remettez la deuxième pâte par-dessus. Donc, on va sceller, en fin de compte, ces deux pâtes grâce à l'eau.
Hein, donc il y en a qui mettent du blanc d'œuf. Moi, je mets de l'eau, c'est plus facile.
Oui, oui,
vous faites avec votre doigt ou avec un pinceau. Si votre doigt est propre, ça, tout va bien. Ou avec un pinceau, c'est comme vous voulez. Et alors, pour que ça soude bien les deux morceaux, en fin de compte, moi, je prends une fourchette, ce qui me permet de faire un dessin sur tout mon bord. Et puis, ça me permet, les extrémités, de souder les extrémités. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous faites un joli décor voilà, avec votre fourchette. Vous posez un bol qui soit de la dimension de votre centre. Hein, vous le posez sur le milieu et vous allez couper, en fin de compte, vous allez couper 16 parts. Alors, moi, j'ai mis 16, mais ça peut être moins, ça peut être plus, tout dépend ce que vous voulez faire. Et donc, en partant du centre du bol, du bord du bol,
ouais,
jusqu'au bout de la galette.
Comme des franges, un peu.
Voilà, ou comme des rayons de soleil. On part sur le soleil. Le cercle où on a mis la frangipane et où on a mis le bol par-dessus et on va couper jusqu'au bout.
D'accord.
Voilà. Et on coupe comme vous avez fait, vous avez scellé comme c'est coupé. Ben, les tranches que vous avez fait, vous allez les torsader de façon à ce que vous reveniez sur la frangipane que vous avez mis sur votre cercle à 2 cm du bord. Vous me suivez là-dessus, Nathalie ?
Ouais.
Voilà.
Et faut pas trop serrer, c'est limite. Enfin, on fait un tour.
Tu fais un tour uniquement. Tu la retournes.
Voilà,
tu la retournes. Du coup, comme c'est retourné, eh ben, vous remettez un petit coup de fourchette pour faire la déco.
Ouais.
Vous mettez du jaune d'œuf dilué dans un peu d'eau par dessus. Vous faites un petit gris-gris si vous voulez. Moi, je laisse tel que c'est, ça suffit bien. Parce que vous allez voir que quand, en fin de compte, les bords que vous avez coupés vont s'ouvrir avec la frangipane, eh ben, ça va faire un effet soleil.
Voilà. Oui, c'est ça, c'est les rayons.
C'est les rayons du soleil. Alors, vous pouvez mettre un sourire, hein, des yeux, enfin, comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, vous éclatez. C'est vrai qu'un petit des yeux, un nez, une bouche au milieu, au centre, vous enlevez.
Smiley.
Voilà, un smiley. Je cherchais le terme. Vous enlevez surtout, avant d'aller au four, vous enlevez le bol, hein, au milieu.
Oui.
Hein, c'est mieux. Et puis, bah, vous enfournez pendant 30 à 40 minutes, bien dorée, à 200 degrés, donc thermostat 6 ou 7. Une fois qu'elle est bien dorée et cuite, bah, vous allez déguster. Alors, on la déguste tiède, pas chaude, parce que la frangipane qui est à l'intérieur,
ça brûle.
Ça brûle. Donc, voilà. Et puis, le meilleur, celui qui a la fève, ben, vous lui donnez un gage. Ou alors, moi, j'aime bien donner les cadeaux quand il y en a un qui a la fève. C'est comme vous voulez. Voilà.
Du coup, pour la couper, on est bien d'accord que, en fait, un rayon, c'est une part, c'est ça ?
Ouais, enfin non.
Et donc, on coupe...
Deux rayons, c'est une part.
Deux rayons, c'est une part, et du coup, on coupe jusqu'au centre, bah, parce que la fève sera dans le centre.
Bien
d'accord,
sûr,
ok.
Bien sûr. Après, vous pouvez la mettre sur les bords. Le problème qui va se poser, c'est que quand vous allez la retourner, elle va se voir.
Ouais.
Elle va se voir. Donc, puisque ça gonfle, au four, ça gonfle légèrement. Voilà, c'est une astuce. Voilà. Mais si vous faites ça, vous allez épater les gens. C'est une galette qui est esthétique, appétissante et voilà, qui renouvelle un peu la tradition de la galette rayée dans tous les sens et parfois pas rayée du tout. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette galette des rois, parce qu'elle est quand même assez intéressante.
Oui, la galette des rois tire son origine des Saturnales. Ce sont des fêtes romaines situées entre la fin du mois de décembre et le commencement de celui de janvier, durant lesquelles les Romains désignent un esclave comme roi du jour. Et ces fêtes saturnales favorisent en effet l'inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne, qui est la divinité chtonienne. Au cours du banquet au sein de chaque grande familia, les Romains utilisent la fève d'un gâteau comme pour tirer au sort le prince des Saturnales ou du désordre. Alors, le roi du jour dispose du pouvoir d'exaucer tous ses désirs pendant toute la journée avant d'être mis à mort. Alors, ça se termine mal, hein, mais du coup, pendant la journée, voilà, c'est tous ses désirs qui sont assouvis, j'allais dire. Ou plus probablement, il peut aussi retourner à la vie servile. Cela permet de resserrer les affections domestiques. Pour assurer la distribution aléatoire des parts de galette, il est de coutume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui est désignée par la personne chargée du service. Le partage de la galette est également associé à la célébration des rois mages lors de l'épiphanie, et ça c'est pour les chrétiens. Au Moyen Âge, les grands nomment quelquefois le roi du festin dont on s'amuse pendant le repas. Louis II de Bourbon, voulant montrer quelle était la piété de ce prince de la fin du XIVe siècle, remarque que le jour des rois, donc à l'épiphanie, il faisait roi un enfant de 8 ans, le plus pauvre que l'on trouva en toute la ville. Il le revêtait d'habits royaux et lui donnait ses propres officiers pour le servir. Le lendemain, l'enfant mangeait encore à la table du duc, puis venait son maître d'hôtel qui faisait la quête pour le pauvre roi. Le duc de Bourbon lui donnait communément 40 livres. Tous les chevaliers de la cour, chacun un franc, ou les écuyers, chacun un demi-franc. La somme montait à près de 15 euros aujourd'hui, que l'on donnait au père et à la mère pour que leur enfant fût élevé à l'école. C'était plutôt bien.
Bah, moi, je trouve que c'est des belles histoires.
Ah, c'est une plus belle histoire que l'esclave. Ah,
mais attends, on est au Moyen-Âge.
Oui.
Mais la galette, elle remonte chez les Romains quand même.
Oui, c'est ça. Les Romains, c'était un esclave qui après soit était tué, soit retournait.
Oui, mais après, il y a les Phrygiens.
Et après, voilà, il y a Louis XIV qui conserve l'usage du gâteau des rois, même à une époque où sa cour, elle, est soumise à une rigoureuse étiquette. En 1711, le Parlement de Paris décide, à cause de la famine, de le proscrire afin que la farine, trop rare, soit uniquement employée à faire du pain. Au commencement du XVIIIe siècle, les boulangers envoyaient d'ordinaire un gâteau des rois à leur pratique, terme ayant ici le sens de client, donc la pratique c'est le client. Les pâtissiers réclamèrent contre cet usage. Et inventèrent même un procès aux boulangers comme usurpant leurs droits. Sur leur requête, le Parlement rend en 1713 et en 1717 des arrêts qui interdisent aux boulangers de faire et de donner à l'avenir aucune espèce de pâtisserie, d'employer du beurre ou des œufs dans leurs pâtes et même de dorer leur pain avec des œufs. La défense n'a d'effet que pour Paris. Et l'usage prohibé continue d'exister dans la plupart des provinces. Alors, quand vient la Révolution, tu en parlais, le nom même de gâteau des rois devient un danger. Oui, parce que Pierre-Louis-Emmanuel, du haut de la tribune de la Convention, tente sans succès d'obtenir l'interdiction du gâteau des rois, mais c'est la galette qui triompha. Et peu après, un arrêté de la Commune ayant changé, dans la séance du 31 décembre 1791, le jour des rois, en jour des sans-culottes, le gâteau n'a plus sa raison d'être. Cette disparition n'est néanmoins que momentanée, car les sans-culottes, ayant renommé l'épiphanie en fête du bon voisinage, ayant recommandé de partager la galette de l'égalité, ils repartaient bientôt sur toutes les tables familiales. Ensuite, on a, au XVIIe siècle, jusqu'aux années 1910, la coutume veut que les boulangers offrent une galette des rois à leurs clients. Compte tenu du coût élevé de cette pratique, la presse d'alors rapporte que les artisans y mettent un terme, certains en chiffrant l'usage à un mois de bénéfice de leur commerce. La galette des rois est une galette traditionnellement élaborée et consommée dans une majeure partie de la France, au Québec aussi, en Acadie, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, au Liban, à l'occasion de l'Épiphanie, qui est une fête chrétienne qui célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus, célébrée selon les pays le 6 janvier, le premier dimanche après le 1er janvier. Cette galette est aussi appelée galette parisienne dans les régions du sud de la France, où l'on consomme non pas la galette, mais le gâteau des rois. La galette des rois est désormais une tradition qui a dépassé les frontières religieuses et qui est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis.
Merci Nathalie. Ben, on est déjà à la fin de notre émission. Voilà, bah, j'espère que le récit sur la galette vous a plu et que les recettes aussi. Bah, écoutez, c'est déjà la fin, c'est triste, mais c'est comme ça. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. N'oubliez pas de refaire et de re-refaire ces recettes faciles et délicieuses et surtout de partager, hein, puisqu'on est en la galette, c'est un partage avec les petits et les grands, le plaisir de cuisiner. C'est génial. Bon, bah écoutez, on vous embrasse.
Ouais.
Hein, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bonne soirée et puis encore très bonne année à tous. Et puis à la semaine prochaine. Bisous.
Au revoir.